Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des résultats annuels du groupe AXA. Nous regrettons encore cette année de ne pas vous recevoir en présentiel, mais nous avons bon espoir de pouvoir le faire l'année prochaine. Ces résultats vous seront présentés par Thomas Buberl, directeur général du groupe, Frédéric de Courtois, directeur général adjoint, Patrick Cohen, directeur général d'AXA France, et Alban de Mailly-Nesle, directeur financier. Comme d'habitude, cette présentation sera suivie d'une session de questions et réponses à laquelle participeront certains membres du comité de direction. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne présentation et je passe maintenant la parole à Thomas Buberl.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de presse des résultats 2021 du groupe AXA. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Pour AXA, 2021 a été une année décisive et charnière. Une année décisive, pourquoi? Car les chiffres prouvent que nous sommes sortis renforcés de la crise Covid. Une année charnière, car elle marque la fin d'une phase de transformation profonde du groupe et le début d'une nouvelle phase du développement. Cette transformation avait trois objectifs majeurs. D'abord, simplifier le groupe en le recentrant sur ses marchés stratégiques. Aujourd'hui, si vous voulez avoir de l'impact, vous ne pouvez pas être partout. Vous devez bien choisir les pays où vous opérez. Le deuxième objectif était de transformer le profil de risque du groupe pour le rendre moins sensible aux marchés financiers. C'est pourquoi nous avons acheté AXA XL, cédé nos opérations vie et gestion d'actifs aux États-Unis et transformé notre business d'assurance vie partout dans le monde. Enfin, notre troisième objectif était d'améliorer l'expérience client. C'est un sujet majeur pour AXA, mais aussi pour l'ensemble du secteur de l'assurance. Après cette transformation, à quoi ressemble AXA? AXA est un groupe recentré sur ses métiers et les marchés clés. Nous sommes le deuxième assureur européen. Nous sommes le premier assureur mondial des entreprises, avec une bonne présence aux États-Unis, et nous sommes aussi un leader international en santé, avec une bonne position en Asie. AXA est également un groupe recentré sur les risques techniques, les dommages, la santé et la prévoyance représentent 80% du résultat de groupe. En 2008, c'était que 20%. Bien sûr, l'assurance vie reste un métier très important pour nous et nos clients. Mais nous avons réduit sa part dans notre business mix et surtout, nous avons accéléré la transition vers des produits moins consommateurs de capital. Enfin, AXA est un groupe qui a amélioré sa relation avec ses clients. L'année dernière, le Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction client, était en hausse de 3 points à 97%. Il y a seulement 2 ans, il était à 75%. C'est une très belle progression rendue possible par l'accélération de la digitalisation et la simplification de nos processus pour améliorer l'expérience client, y compris en ce qui concerne le traitement de leurs sinistres. Et nous allons poursuivre nos efforts pour continuer d'améliorer cette expérience sur l'ensemble de nos lignes de business. Vous le voyez, la transformation d'AXA a été profonde. Surtout, elle a été un succès, comme le montrent nos résultats en 2021. L'année dernière, AXA a réalisé une excellente performance. AXA est un groupe en croissance. Le chiffre d'affaires est en hausse de 6% à 100 milliards d'euros. Cette croissance a été tirée par tous nos métiers. Le dommage, l'assurance vie, la santé et la gestion d'actifs. AXA est aussi un groupe rentable. Le résultat opérationnel est de 6,8 milliards d'euros, en hausse de 9% en base normalisée. Tous nos marchés ont contribué à cette performance. Et le succès d'AXA XL a été le facteur clé. Je viens y revenir après. Enfin, AXA est un groupe très solide, avec un ratio de solvabilité 2 en hausse de 17 points à 217%. Compte tenu de cette très bonne performance, le conseil d'administration propose aux actionnaires un dividende de 1,54 € par action, en hausse de 8% par rapport à l'année dernière. Par ailleurs, nous estimons être positionnés pour délivrer une croissance moyenne du résultat par action dans le haut de notre fourchette cible entre 2020 et 2023. Nous estimons aussi être bien placés pour dépasser notre objectif de cash flow entre 2021 et 2023. Vous le voyez, nous sommes très confiants de pouvoir atteindre les objectifs de notre plan stratégique Driving Progress 2023. Je vais maintenant vous montrer les grands moteurs de notre performance, nos métiers et nos marchés. Je vous le disais à l'instant, notre activité commerciale a été très dynamique l'année dernière. Cette croissance du chiffre d'affaires a été tirée par tous nos métiers. Le dommage en hausse de 3% à 49,3 milliards d'euros. La vie, l'épargne, retraite qui progresse de 9% à 33,3 milliards d'euros. La santé en hausse de 5% à 15,2 milliards d'euros. Et la gestion d'actifs en hausse de 20% à 1,5 milliard d'euros. Ces chiffres montrent bien le grand potentiel de ces métiers. Ils répondent aux besoins importants de nos clients. Pour AXA, c'est une grande source de développement fort dans le futur, car cette croissance a été rentable. Ce slide montre bien l'équilibre et la puissance du modèle AXA, comme je vous l'expliquais à l'instant. Comme chaque année, la France confirme son rôle de pilier du groupe avec un résultat de 1,8 milliard d'euros en hausse de 8%. Le reste de l'Europe génère 2,5 milliards d'euros, soit près de 40% de la performance du groupe. Nous avons également une solide position en Asie où nous générons 1,2 milliard du résultat. Enfin, nous avons deux grands métiers transversaux qui nous assurent une présence sur tous les grands marchés mondiaux. Ils ont affiché une excellente performance. Nous en sommes très fiers. Ce résultat d'action de transformation faite par le management et les équipes de nos filiales. Il y a bien sûr AXA Investment Manager, avec un résultat en très forte hausse de 25%, 0,3 milliards d'euros. Il y a surtout AXA XL qui a atteint son objectif, 1,2 milliard d'euros de résultats. C'est autant que l'Asie. C'est un des faits notables de nos résultats cette année. Le travail opéré par notre filiale spécialisée dans les grands risques a vraiment porté ses fruits. AXA XL est désormais très bien positionné pour générer une croissance durable et rentable. C'est une très bonne nouvelle pour le groupe et pour tous nos clients. Cela prouve la pertinence de ce grand mouvement stratégique. Vous le voyez, AXA a dégagé d'excellents résultats et affiche une très grande solidité. Cette performance financière est absolument clé. C'est grâce à elle qu'AXA peut avoir aussi un grand impact économique, social et sociétal fort. Le grand enjeu sociétal est bien sûr le changement climatique. En tant qu'assureur, AXA est un observateur privilégié des impacts du changement climatique. En tant qu'investisseur, AXA est un acteur engagé pour accompagner les économies et les entreprises dans cette grande transition énergétique. En 2021, nous avons donc poursuivi notre engagement sur ces deux piliers. Nous avons été très impliqués dans le lancement de la Net Zero Insurance Alliance. C'est une démarche importante qui vise à mieux intégrer les enjeux climatiques dans les critères de sélection de risques. Nous avons aussi renforcé notre politique sur les énergies fossiles. Nous avons annoncé clairement notre intention de progressivement arrêter de soutenir des types d'extraction et d'acteurs qui ne nous semblent pas alignés avec les exigences de la transition énergétique. Au contraire, nous allons continuer d'investir et d'assurer les acteurs dont les trajectoires de transition sont crédibles. Elles auront un rôle clé à jouer dans l'accélération de la transition énergétique. Enfin, nous avons engagé 1,5 milliard d'euros pour soutenir une gestion durable des forêts. La lutte contre le changement climatique sera longue et difficile. Nous nous sommes donc fixés un cap clair à travers des objectifs concrets inclus dans notre index pour le progrès, annoncé l'année dernière lors de notre Assemblée générale. Je vous en rappelle quelques éléments. Réduire l'empreinte carbone des actifs du Fonds général d'AXA de 20% d'ici 2022. Accroître les investissements verts d'AXA pour atteindre 26 milliards d'ici 2023. Nous sommes déjà à plus de 23 milliards. Faire de nos 120 000 collaborateurs des acteurs engagés dans la transition climatique. C'est pour ça que nous voulons les former aux enjeux climatiques. Nous visons 80 000 d'ici le mois de septembre. Enfin, nous voulons atteindre la neutralité carbone sur nos propres opérations d'ici 2022. Nos objectifs sont ambitieux. Nous ne devons pas ralentir nos efforts. Nous devons aussi continuer à contribuer au développement économique et social dans les pays où nous opérons. Ce slide est très intéressant. Il montre la valeur qu'AXA génère pour toutes ses parties prenantes. D'une part, pour ses clients, c'est les deux chiffres qui illustrent bien notre action. Nous rembourserons chaque année 50 milliards d'euros de sinistres. Après un dommage, c'est la garantie de pouvoir rebondir pour nos clients. Nous versons aussi 6,5 milliards d'euros pour rémunérer l'épargne de nos clients. D'autre part, AXA est aussi employeur actif partout dans le monde. Nous recrutons 12 000 personnes chaque année et ce chiffre ne compte pas tous les dispositifs que nous avons pour permettre certainement aux jeunes de commencer leur carrière. Nous versons aussi près de 6 milliards d'euros de salaires chaque année. Par ailleurs, nous soutenons un développement économique équilibré. Nous investissons chaque année 40 milliards d'euros dans l'économie notamment dans des projets très concrets pour chacun, les transports, les infrastructures. Nous versons également plus que 10 milliards d'euros d'impôts et prélèvements, donc près de 40% en France. Enfin, nous rémunérons ceux qui investissent dans AXA et contribuent à sa solidité. Nous avons versé l'année dernière 3,4 milliards d'euros de dividendes à près de 300 000 actionnaires. Parmi eux, il y a très nombreux collaborateurs. Depuis 30 ans, nous avons une politique très active pour les aider à devenir actionnaires. Ils détiennent aujourd'hui 6% des droits de vote. Ils sont ainsi associés aux choix stratégiques de l'entreprise et à sa performance. Attirer des talents a toujours été un enjeu clé pour nous. Nous pensons que ce sujet va être de plus en plus important dans les années qui viennent. C'est pourquoi nous avons mis en place une culture d'entreprise au service de l'engagement de nos collaborateurs. Vous voyez sur le slide certains de nos actions importantes mises en place. Certains, depuis très longtemps, comme notre politique d'actionnariat salarié, mais aussi celle en faveur de la diversité et de l'inclusion. D'autres, plus récemment, pour adapter notre entreprise aux nouveaux besoins de nos collaborateurs. Je pense notamment au télétravail et à notre politique de protection de la santé, en particulier la santé mentale. Toutes ces actions nous permettent de bénéficier d'un engagement très fort de nos collaborateurs et un très bon niveau de satisfaction de leur part, comme l'ont démontré nos enquêtes différentes de satisfaction réalisées au niveau global tout au long de l'année dernière. L'ensemble de tous ces éléments que je viens vous présenter nous rend très confiants pour l'avenir. Vous connaissez bien ce slide maintenant. Il résume les priorités stratégiques et leurs indicateurs financiers clés pendant notre plan Driving Progress 2023. Je vous rappelle les 5 actions stratégiques. Développer la santé et la prévoyance. Simplifier l'expérience client et poursuivre les efforts d'efficacité. Renforcer la performance de souscription, poursuivre notre leadership sur les enjeux climatiques et accroître les cash flows dans l'ensemble du groupe. Concernant nos indicateurs financiers clés, nous estimons être positionnés pour délivrer une croissance moyenne du résultat par action dans le haut de notre fourchette cible de 3 à 7% entre 2020 et 2023. Par ailleurs, nous sommes dans la bonne direction pour dépasser notre objectif des cash flows entre 2021 et 2023. Notre volonté est d'investir dans le développement de l'entreprise. Les rachats d'actions sont également des outils dont nous disposons éventuellement pour générer de la valeur. Vous le voyez, AXA va très bien. Le groupe a réussi sa transformation. Les résultats sont excellents, notre gouvernance est claire et de très grande qualité et notre vision stratégique est parfaitement adaptée à cet environnement. Tous ces engagements, toutes les réussites, nous le devons à la fidélité de nos clients, mais en particulier à l'engagement de nos collaborateurs, les agents et les partenaires. Grâce à eux, nous sommes dans cette excellente position pour atteindre les objectifs de notre plan Driving Progress et répondre aux grands enjeux de nos sociétés. J'aimerais vraiment les remercier tous. Je passe maintenant la parole à Frédéric de Courtois. Bonjour à tous. Nous affichons des très bons résultats dans toutes nos lignes de métier et je voudrais maintenant passer brièvement en revue ces quatre lignes de métier. L'assurance dommage d'abord. Donc, comme vous le voyez ici, croissance solide de 3% l'année dernière. Si je regarde dans un premier temps l'assurance des entreprises, affiche une très forte croissance, donc de 5%. Avec des hausses tarifaires en moyenne de 7%, performance en particulier excellente chez AXA France, avec une croissance de l'activité de 11%, et également chez AXA XL. Alors pour dire un mot d'AXA XL, vous voyez sur ce slide les très fortes augmentations tarifaires obtenues l'année dernière, dont 15% dans l'activité assurance, 9% dans l'activité de réassurance. Si je regarde maintenant les renouvellements au 1er janvier de cette année, les renouvellements ont également été très satisfaisants, avec une augmentation des tarifs en assurance de 11% et une augmentation des tarifs en réassurance de 8%. Donc AXA XL est de nouveau bien positionné cette année après ce renouvellement partiel du portefeuille au 1er janvier. Si je regarde toujours à l'intérieur de cette ligne de métier de l'assurance dommage, l'assurance de particulier, donc vous voyez que l'assurance des particuliers croît de 1%, ce qui s'explique par des tarifs globalement stables dans nos différents sous-segments en assurance automobile et dans les lignes et dans les autres lignes non automobiles. Si je regarde maintenant la rentabilité en assurance dommage, vous voyez que la rentabilité de l'assurance dommage a fortement augmenté. Bon, bien sûr, d'une part, de la non-récurrence des sinistres Covid en 2020. Mais si j'exclus les sinistres Covid, l'assurance dommage a connu une croissance de 29% l'année dernière à 4,1 milliards d'euros, comme vous le voyez sur le slide. Donc ça s'explique principalement par une très forte performance technique, une très forte performance de souscription. Et à l'intérieur de cette performance de souscription, le fait notable, c'est la très forte amélioration d'AXA XL, qui a fourni un travail extraordinaire ces dernières années, qui a largement resouscrit son portefeuille et qui est très bien positionné pour délivrer cette année et les années suivantes. Donc AXA XL, et c'est un message important, est au rendez-vous et a délivré cette année un résultat qui est vraiment en phase avec nos attentes. Vous voyez que le résultat d'investissement est stable, ce qui est une bonne performance dans un contexte de taux plus bas. Et tout ceci donc se traduit dans le ratio combiné que vous voyez en forte amélioration, donc de nouveau forte amélioration du résultat technique avec un ratio combiné à 94,6%. Alors dans ce ratio combiné, il y a un certain nombre d'éléments exceptionnels. Je vais en citer quatre. Donc le premier, c'est évidemment les catastrophes naturelles cette année. Vous savez que cette année a été très lourde en termes de catastrophes naturelles. Ça a été la quatrième année la plus coûteuse en termes de catastrophes naturelles depuis 1970. Donc ça a évidemment eu un impact négatif sur notre ratio combiné. Le deuxième élément exceptionnel, c'est les meilleures fréquences en assurance auto, évidemment liées à la situation particulière du confinement. Le troisième événement exceptionnel, c'est l'indemnisation des restaurateurs en France. Vous savez que nous avons atteint un accord avec une très grande majorité des restaurateurs. Et évidemment, ceci a un coût pour nous et a un impact sur le ratio combiné. Et enfin, quatrième élément exceptionnel, des résultats sur antérieurs supérieurs à ce que nous attendions. Il se trouve que ces quatre éléments exceptionnels se compensent. Et on peut considérer que le 94,6% est un bon point de référence. Il traduit notre très bonne performance technique et il nous place en bonne position pour atteindre notre objectif de 93% en 2023 et nous confirmons cet objectif. Si je regarde maintenant l'assurance vie, donc vous voyez que l'assurance vie affiche une forte croissance de 9%. Ce qui est important pour nous, c'est également la qualité du mix. Vous voyez que la croissance est en particulier forte en prévoyance, en unité de compte
et pour le fonds général pour les produits à faible consommation de capital. Alors cette performance, et vous le voyez sur la droite, est en particulier excellente en France et en Asie. Alors pourquoi en France ? Parce que l'assurance vie individuelle a extrêmement bien performé l'année dernière. C'est vrai pour les produits en unité de compte, c'est vrai pour les plans d'épargne retraite, les PER, c'est vrai pour les produits qu'on appelle à faible consommation en capital, donc en l'occurrence eurocroissance. Et si vous regardez le mix d'activités en France, si j'additionne les unités de compte et l'eurocroissance, donc ça représente 56% de notre activité, ce qui est un ratio 15 points supérieur au marché. Alors comment cette performance exceptionnelle s'analyse-t-elle en France ? Bien, elle s'analyse par la très bonne performance de nos réseaux propriétaires, donc agents et réseaux salariés. Très bonne performance également, comme je l'ai dit, en Asie, en particulier au Japon et à Hong Kong, avec des produits de prévoyance et des produits unités de compte et fonds général à faible consommation de capital. Vous voyez enfin en bas à droite que les flux nets confirment cette tendance et cet alignement avec notre stratégie, avec des flux nets négatifs sur l'épargne traditionnelle et des flux nets positifs et importants sur tous nos autres métiers. Si je passe maintenant aux affaires nouvelles, bon, le message ici est le même. Vous voyez que les affaires nouvelles ont fortement cru, donc ça traduit le dynamisme commercial, le dynamisme de nos réseaux, donc avec une croissance de 13% l'année dernière et une accélération au cours du second semestre. La valeur des affaires nouvelles qui traduit la valeur créée, si je puis dire, est également en forte croissance à 8% et c'est le reflet de la qualité du mix dont j'ai parlé avant. Vous voyez qu'on a une baisse, très faible baisse de la marge sur affaires nouvelles, négligeable, qui est le résultat d'un changement de mix en assurance santé avec plus d'assurance de groupe et un peu moins d'assurance individuelle, mais c'est très peu significatif. En termes de résultats, donc vous voyez que le résultat opérationnel de l'assurance vie connaît une croissance solide de 3%. Si j'exclus les sociétés qui sont sorties du groupe cette année, c'est-à-dire en particulier l'Europe centrale, la Grèce, et si j'exclus également cette transaction de réassurance à Hong Kong, le résultat opérationnel sera en croissance de 5%. Donc, comment ça s'analyse ? Donc, d'abord, une assez significative croissance de la marge technique, c'est le premier point à noter. Deuxième point à noter, et vous pouvez regarder également la partie droite du slide, une marge d'investissement qui est extrêmement résiliente, qui est là également une forte performance dans un contexte de taux bas. Et vous noterez que cette marge d'investissement à 66 points de base est au-delà de l'indication que nous avions donnée pour notre plan, sur la période du plan, en termes de marge d'investissement, puisque nous avions indiqué une fourchette 55-65 points de base. Donc nous sommes satisfaits de cette performance. Et enfin, dernier élément pour expliquer ce résultat, une croissance assez forte des revenus sur les produits en unité de compte qui traduisent d'abord, comme je l'ai dit, une forte dynamique commerciale, donc des affaires nouvelles, mais également, évidemment, une hausse des marchés financiers qui a augmenté le stock sur ces produits en unité de compte. Je passe à notre troisième ligne de business qui est l'assurance santé, qui est extrêmement stratégique, comme l'a dit Thomas. Donc vous voyez que nous poursuivons notre croissance rentable sur cette ligne d'activité, donc croissance très satisfaisante de 5% par an, croissance en particulier importante sur l'assurance de groupe de 9% cette année, avec une performance notable chez AXA France. Le ratio combiné donc, se dégrade très légèrement, mais ça n'est pas significatif, de 0,4 points, ce qui s'explique par deux éléments. D'une part, le fait qu'on avait eu une moindre fréquence sur l'assurance santé l'année dernière due au confinement, et d'autre part, au fait que cette année, le Mexique, qui pour nous est un marché important en termes d'assurance santé, a souffert des conséquences du Covid. Donc ces deux ajustements entraînent une très légère hausse du ratio combiné, mais qui reste excellente. Donc au total, Nous sommes très satisfaits de cette activité. Et vous voyez qu'elle représente aujourd'hui environ 10% du résultat du groupe AXA. Je voudrais faire un zoom particulier cette année sur l'activité de gestion d'actifs, donc d'asset management, qui est notre quatrième ligne d'activité. Vous voyez ici que la performance commerciale a été extrêmement bonne cette année. Ça se traduit par des actifs moyens sous gestion qui augmentent de 5%. Donc évidemment, la hausse des actifs moyens sous gestion s'explique par un double mouvement. D'abord, la collecte nette positive, et je vais y revenir, mais également l'augmentation des marchés financiers. Donc la collecte nette globale augmente de 12 milliards. Vous voyez que c'est en particulier le cas sur la partie alternative, donc ce que nous appelons alternatives sont les actifs non cotés, et sur les joint ventures en Asie. La partie core semble en décroissance. En réalité, c'est largement dû à une décroissance sur le fonds général. Je fais le lien avec ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons des flux négatifs sur le fonds général, et ça traduit également une opération exceptionnelle sur ce contrat de réassurance à Hong Kong. L'activité core, en revanche, a fortement progressé sur le business pour compte de tiers. Donc vous voyez en bas à droite, donc l'activité pour compte de tiers a fortement augmenté, aussi bien en alternative que pour notre business core. Évidemment, et vous allez voir par la suite, cela se traduit par une augmentation de nos marges. Si je regarde maintenant les résultats, donc les résultats sont évidemment le reflet de ce que je viens de dire, c'est-à-dire une augmentation des marchés financiers, une collecte nette importante et un meilleur mix. Donc tout ceci se traduit par une augmentation en valeur absolue de 20% des revenus, donc du chiffre d'affaires, et ça se traduit également, vous le voyez, par une augmentation de la marge, donc qui est la traduction de ce que je disais sur le meilleur mix. Donc, augmentation très importante du chiffre d'affaires. Conséquence de ceci, le ratio d'exploitation s'améliore très fortement. Donc, c'est que le ratio d'exploitation sur nos coûts divisé par nos revenus. Donc, amélioration de quasiment 4 points du ratio d'exploitation. Donc, bien sûr, dû à l'augmentation du chiffre d'affaires, mais également dû à une bonne discipline sur les coûts l'année dernière. Traduction finale de tout ceci, donc un résultat opérationnel en hausse de 25%, donc qui est la conséquence de tout ce que je viens de dire, et en particulier de la très grande qualité de notre franchise en alternatif. Un dernier mot sur ce sujet, donc sur la franchise alternative. J'aimerais insister sur le fait que nous sommes le leader européen de la gestion alternative, donc de la gestion des actifs non cotés, donc première franchise en Europe sur ce sujet. C'est une franchise qui a une performance éprouvée, donc ce n'est pas la performance d'une année, mais vous avez vu que la performance cette année a été très bonne. Mais si je prends sur les 5 dernières années, vous voyez que les actifs sous gestion ont augmenté en moyenne de 12% par an. La collecte nette au total a été de 54 milliards d'euros au cours des 5 dernières années. Et tout ceci se traduit évidemment dans la part du chiffre d'affaires de cette activité alternative au sein d'AXA IM. Donc c'est une activité qui est extrêmement stratégique pour nous, qui a des résultats qui sont extrêmement satisfaisants. Et nous avons l'intention de continuer à la développer comme nous l'avons fait au cours des dernières années. En conclusion, un mot de conclusion, donc, pour répéter ce que j'ai dit, donc d'une part, vous avez vu que les résultats sont très bons dans toutes les lignes de business, donc nos quatre moteurs sont allumés, si je puis dire, et évidemment, c'est un motif de satisfaction pour nous. Et mon deuxième message important, c'est qu'AXA XL a vraiment été au rendez-vous. Après ce travail exceptionnel des dernières années, AXA XL est restructuré et est une business unit qui est prête à exprimer tout son potentiel et qui a encore énormément de potentiel. Merci, et je passe la parole à Patrick sur AXA France.
Bonjour à toutes et tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma première pour les comptes annuels et j'ai le privilège de le faire dans un contexte de très bons résultats pour AXA France. Il y a trois sujets que je souhaiterais couvrir avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est brièvement vous rappeler ce qui fait la force d'AXA France. Ensuite, je voudrais commenter les faits marquants de la performance 2021. Enfin, je voudrais vous parler de nos priorités pour poursuivre notre trajectoire de croissance profitable et renforcer l'engagement citoyen qui est dans les gènes d'AXA France. AXA a une position unique sur le marché français. Aujourd'hui, nous servons 10 millions de clients, une PME sur trois, un professionnel sur quatre. Et pour vous donner un ordre de grandeur, en dommages, nous gérons plus de 5000 sinistres par jour. Nous sommes leaders sur la quasi-totalité des métiers. Nous sommes également leaders sur l'assurance directe en France. Nous sommes les seuls à être aussi diversifiés entre les trois grandes activités que sont le dommage, la santé-prévoyance et l'épargne-retraite. Ceci nous rend particulièrement résilients. Cette position sur le marché, nous la devons à l'étendue de l'expertise technique de nos équipes, à leur capacité à innover constamment. Nous la devons également à la puissance de nos réseaux de distribution, à la qualité du conseil qu'ils dispensent aux clients et à leur maillage unique sur le territoire, puisque chaque Français est à moins de 5 km d'un conseiller AXA. Tout ceci est très concret et c'est à la source de notre très belle performance en 2021. Notre chiffre d'affaires a atteint un niveau record à 28 milliards. Il est en hausse de 13% et ça n'est pas seulement lié à un effet rebond. La croissance s'élève à 8% par rapport à 2019. Nous sommes en conquête sur toutes les lignes de métier et sur tous nos réseaux. En dommages, nous avons cru de 7%, 11% sur l'entreprise grâce à l'innovation produit et au déploiement de notre nouvelle plateforme digitale de souscription. Et en dommages particuliers, nous avons doublé nos apports nets à près de 100 000 clients grâce à la refonte de notre offre. Nous avons cru de 10% en santé. C'est le fruit de notre développement sur les collectives où nous faisons la différence grâce à une large palette de services, notamment notre plateforme Angel que nous avons lancée l'année dernière. Mais c'est aussi le fruit de notre développement en santé individuelle. Depuis que la résiliation est possible à tout moment, eh bien, nous gagnons encore plus de clients grâce à la qualité de notre offre et à la mobilisation de nos réseaux. Enfin, en vie, notre chiffre d'affaires a augmenté de 17%, principalement grâce à la très belle croissance sur le marché de la retraite. Nous avons été pionniers sur le PER et nous sommes aujourd'hui leaders avec une part de marché de 20%. Nous avons eu également un fort rebond de l'épargne individuelle avec un accueil de nos innovations en unité compte qui a été très bon. Nous avons par exemple donné accès au grand public, au capital investissement, dans des PME, dans des ETI tricolores. Et puis 2021, c'est l'année du décollage de l'eurocroissance, dont la collecte a plus que doublé. Dans les faits marquants sur l'activité 2021, il y a un point qui me tient particulièrement à cœur. C'est la hausse de la satisfaction client sur l'ensemble de nos activités. Et ceci se traduit par une grande fidélisation, une plus grande fidélisation de nos clients. Pour ce qui est du résultat opérationnel, il est en hausse de 8% à 1,8 milliard, porté par la forte dynamique commerciale dont je viens de vous parler et la qualité des affaires souscrites, avec un ratio combiné en dommages de 89,7% et un taux de diversification en épargne 15 points au-dessus de la moyenne du marché à 56%. Et puis, je le rappelle, dans notre résultat opérationnel, il y a l'impact des 300 millions mobilisés pour la démarche amiable avec les restaurateurs. Je suis ravi de vous dire que 80% d'entre eux ont initié cette démarche et aujourd'hui, 75% ont accepté notre proposition. Nous sommes en apport net positif sur les restaurateurs et à un niveau supérieur à la situation d'avant-crise. Je vous en parlais en introduction. Nous sommes une entreprise profondément engagée dans la cité. Et en 2021, nous nous sommes illustrés notamment en matière d'emploi avec 6 000 recrutements, dont 3 000 jeunes et 3 300 CDI. En matière de relance, avec 2 milliards investis dans les PME et les ETI françaises. En matière de protection de l'environnement, en portant le montant de nos investissements verts à 9 milliards. Voilà pour 2021 et j'en profite pour féliciter une nouvelle fois chaleureusement toutes les équipes d'AXA France. Nous n'allons pas nous reposer sur ces résultats. Nous croyons dans le potentiel d'AXA France. Nous croyons dans notre capacité à renforcer encore notre position leader. Et pour ce faire, nous allons fortement accélérer sur trois priorités. L'expérience client, la technologie et l'agilité, et l'engagement sociétal. Sur l'expérience client, la crise nous a fait gagner des années en termes d'adoption digitale. Mais elle a également mis en exergue l'importance de la proximité et de la relation humaine qu'incarnent nos réseaux. Nos réseaux d'agents généraux, nos réseaux d'agents patrimoine et prévoyance et nos réseaux salariés. C'est pour cela que nous allons d'une part fortement investir sur la digitalisation des parcours clients pour une expérience plus simple, plus rapide, avec une qualité de service exemplaire, en donnant aux clients la liberté de choisir le canal qui leur convient, physique ou digital, à toutes les étapes de la vie des contrats. Mais nous allons aussi, dans le même temps, accélérer la transformation de nos réseaux de distribution. Nous voulons des réseaux en croissance, et ils le sont en 2021. Nous voulons qu'ils soient dotés de nouveaux outils technologiques et toujours plus experts pour apporter aux clients des conseils à forte valeur ajoutée. Nous allons aussi continuer d'innover pour répondre à des besoins de protection accrus et nous positionner sur des marchés d'avenir. Nous innoverons sur les services en santé, en entreprise et en termes d'offres, nous allons mettre l'accent sur l'assurance verte et inclusive, sur le développement d'unités de compte non cotées et sur l'eurocroissance, qui est pour nous le nouveau socle de l'assurance vie. La deuxième priorité sur laquelle nous allons accélérer, c'est la technologie et l'agilité. La technologie n'est pas un but en soi, c'est la condition pour conserver notre leadership. Et nous allons la mettre au service de nos clients, de nos réseaux et de nos collaborateurs. Nous augmentons nos investissements technologiques parce que les possibilités de progrès sont immenses. L'automatisation, l'intelligence artificielle, nous allons les utiliser à l'échelle pour réduire les temps de procédure, notamment en gestion et en souscription, et conserver notre leadership technique. Et puis, nous voulons aussi en interne gagner en rapidité et mieux valoriser nos atouts humains. Concrètement, nous allons simplifier notre organisation et notre gouvernance pour stimuler l'innovation et l'esprit entrepreneurial qui sont l'ADN d'AXA. Enfin, troisième priorité, l'engagement sociétal. Chez nous, c'est une réalité depuis toujours. Ça n'est pas un slogan. C'est un engagement authentique que portent les femmes et les hommes d'AXA France. Et nous allons renforcer notre action. Sur la protection de l'environnement, où nous voulons rester pionniers, nous allons développer le business vert. Dès l'an prochain, 90% de nos affaires nouvelles répondront à des critères ESG. Nous allons franchir la barre des 10 milliards d'investissements verts. Et nous voulons également renforcer notre action solidaire dans les territoires. Nous allons mettre encore plus de moyens dans les partenariats avec les associations locales dans tous les territoires. Et puis, nous ferons tout pour rester la référence en matière de prévention. Nous allons nous concentrer sur la santé, sur les risques cyber et l'environnement. Dans cette transformation, l'engagement et le bien-être des collaborateurs seront une priorité absolue. La crise nous a rappelé que les entreprises sont avant tout de formidables aventures humaines. Et nous vivons en ce moment même le passage du travail à distance contraint au vrai smart working. Dans ce contexte, il nous revient d'inventer un nouveau projet collectif basé sur la flexibilité, l'empathie managériale, la qualité de vie au travail et la valorisation de la diversité sous toutes ses formes. En conclusion, je voudrais vous dire que nous avons un positionnement unique sur notre marché. Nous avons toujours été au rendez-vous de la performance. Nous n'avons pas l'intention de nous reposer sur ces résultats. Et pour gagner dans le futur, nous allons conjuguer digital et proximité, innovation produits et services, humain et technologie, performance et engagement sociétal. C'est sur ces enjeux clés que les femmes et les hommes d'AXA France sont mobilisés pour accélérer notre transformation. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Alban de Mayinel.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais maintenant commenter l'évolution de notre résultat opérationnel qui traduit la qualité de notre performance. Donc, notre résultat opérationnel a augmenté de 61% par rapport à 2020. Vous vous rappelez que 2020 avait été marqué, comme l'a souligné Frédéric, par le Covid et les catastrophes naturelles. Si l'on ajuste les chiffres de 2020 de ces deux impacts, il n'en reste pas moins que notre résultat opérationnel a cru de 9% par rapport à cette période. Donc c'est une excellente performance. Et comme l'a dit Frédéric, elle est portée notamment par l'amélioration de notre souscription en assurance dommage et notamment chez Excel. Mais nous avons eu aussi une croissance régulière de notre résultat en assurance santé et en assurance vie. Et enfin, l'asset management s'est également extrêmement bien comporté grâce à l'environnement financier, mais également grâce à l'apport net de nos clients. Quant au holding, le résultat est en légère baisse et c'est dû à de moindres dividendes venant de sociétés que nous ne consolidons pas. Donc au global, un résultat opérationnel en hausse de 9%. Je passe maintenant au résultat net qui, lui, est en hausse de 135% à 7,3 milliards. Cette hausse est évidemment portée par la hausse du résultat opérationnel, mais aussi par l'environnement financier favorable de 2021, qui nous a permis de réaliser 400 millions de plus-value, mais qui a amené aussi à une revalorisation de certains actifs par compte de résultat pour un peu plus d'1,1 milliard. Il y a un impact limité des ajustements sur les incorporels ou les coûts d'intégration. Et les coûts relatifs aux activités exceptionnelles sont liés aux transactions que nous menons, notamment à Hong Kong, en Belgique, ou à la cession de nos activités. Si l'on passe maintenant aux capitaux propres, le message important, c'est que la rentabilité de nos capitaux propres s'inscrit à un excellent niveau en 2021, à 14,7%, c'est-à-dire tout à fait en haut de la fourchette que nous nous sommes donnée de 13 à 15%. C'est une autre façon de traduire l'excellente performance opérationnelle que nous avons eue l'an dernier. En ce qui concerne nos fonds propres, ils sont stables, en très légère baisse. Cette baisse est liée à la valorisation en valeur de marché de nos actifs. Vous savez que nous avons principalement des actifs obligataires et compte tenu de la hausse des taux, ils se sont un peu dévalorisés en 2021. Mais cette baisse a été quasiment compensée par notre résultat net que nous avons engrangé en 2021. Nous avons évidemment payé un dividende de 3,4 milliards. Vous voyez à l'écran aussi que nous avons procédé à un rachat d'actions à hauteur de 900 millions. Nous avons lancé un programme de rachat d'actions qui, au total, faisait 1,7 milliard. Et au 31 décembre dernier, nous avions réalisé 900 millions sur ce 1,7 milliard. Le solde a été fait dans les premières semaines de janvier et de février. Le dernier impact porte sur les engagements de retraite qui, grâce à la hausse des taux, ont un impact positif sur nos fonds propres. Si l'on passe maintenant au ratio de solvabilité, il s'inscrit à un excellent niveau de 217%. En forte hausse par rapport à l'année précédente, il était déjà à 200%. Vous vous rappelez que notre ratio cible se situe à 190%. Et donc nous sommes au-delà de ce ratio cible et très nettement. Vous voyez également sur la diapositive la sensibilité de ce ratio de solvabilité à certains chocs de marché. Et vous voyez que malgré ces chocs, notre ratio resterait à un excellent niveau, ce qui montre la forte capitalisation et la robustesse de notre bilan. Je passe maintenant à la trésorerie que nous avons à la holding. Elle s'inscrit à 4,5 milliards. Là aussi, c'est au-dessus de la fourchette que nous sommes donnée, qui était de 1 à 3 milliards. Ce très bon niveau a été atteint principalement par la remontée de trésorerie venant de nos filiales, à hauteur de 4,4 milliards, mais également aux produits de cession de certaines de nos activités pour 1,4 milliard et à une émission de dette financière pour 900 millions. Et donc, nous avons ce niveau de trésorerie malgré, évidemment, les débours que nous avons dû faire pour payer notre dividende l'an dernier, 3,4 milliards, ou pour le rachat d'actions, encore une fois, 900 millions. Donc, nous aboutissons à une trésorerie de 4,5 milliards, un excellent niveau pour 2021. Quant à notre dette financière, elle s'inscrit à 18,1 milliards, en hausse de 1,5 milliard par rapport à la fin de 2020. Cette hausse de 1,5 milliard, c'est 1 milliard ou 900 millions de dette financière nouvelle, comme on l'a montré dans les précédents slides, et un effet change pour le solde. Nous gardons un effet de levier, un taux d'endettement, qui est dans notre fourchette, il s'inscrit à 26,4%. Notre fourchette est entre 25 et 28%. Donc nous avons un endettement tout à fait maîtrisé et qui contribue à la robustesse de notre bilan. Pour information, nous avons procédé à deux opérations sur notre dette en début d'année. Nous avons remboursé une dette dite Tier 1 de 850 millions de dollars et nous avons émis une dette Tier 2 de 1,25 milliard, ce qui s'inscrit là aussi dans notre programme pour 2022. Enfin, sur nos investissements, donc nous avons investi l'an dernier, donc nos nouveaux investissements, à un taux moyen de 1,4% dans les produits de taux. Ce 1,4%, c'est un mix entre 1% sur la dette dite core, c'est-à-dire la dette liquide, les obligations souveraines, les obligations d'entreprise, et 2,4% sur la dette privée ou alternative. C'est ce que Frédéric a montré lorsque nous avons parlé de l'activité ALT. Donc ça nous permet d'avoir 1,4% en moyenne. Et vous voyez que ça ne s'est pas fait au détriment de la qualité de nos investissements. Puisque nous avons conservé un rating moyen de AA sur les obligations souveraines dans lesquelles nous investissons et un rating moyen de A, à la fois sur les obligations corporates, mais également sur les obligations, sur les dettes privées dans lesquelles nous investissons. Donc nous ne transigeons pas avec la qualité de nos investissements. Donc à quoi est-ce que cela a conduit pour le rendement de nos actifs au global? En assurance dommage, le rendement a été extrêmement stable, à 2,6%. Si l'on veut être très précis, il a baissé de 2 points de base. Donc c'est grâce à la gestion stricte de nos investissements. Et en vie, comme l'avait également souligné Frédéric, notre marge financière est restée quasi stable à 66 points de base, ce qui est au-dessus de la cible que nous avons pour notre plan 2021-2023. Donc au global, vous voyez que nous avons eu d'excellentes performances opérationnelles, une très forte hausse de nos résultats, tant résultats opérationnels que résultats nets. Mais nous avons aussi un bilan qui est extrêmement robuste, que l'on parle de solvabilité ou que l'on parle de cash, et une rentabilité de nos fonds propres qui est absolument excellente à 14,7%. Je vais maintenant repasser la parole à Thomas pour la conclusion.
En conclusion, on peut dire qu'AXA a réalisé une excellente performance à travers le groupe avec une forte croissance de l'activité de nos produits et solide performance opérationnelle à travers de tous les marchés. Un succès de la transformation d'AXA XL aujourd'hui, pleinement opérationnel. Nous sommes positionnés pour délivrer un résultat par action en haut de notre fourchette cible et dépasser l'objectif de trésorerie d'ici 2023. Et pour finir, nous avons une grande confiance dans l'atteinte de nos objectifs du plan Driving Progress 2023 et de nos ambitions au-delà. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à toutes vos questions.